Accelerate.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler du nouveau normal ou de comment se préparer à la prochaine crise. Orange Cyberdéfense annonçait une augmentation de 20 à 25% des cyber-attaques. Ça, c'était à la fin du mois d'avril. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte, à travers les cyber-attaques en augmentation ou simplement à travers le changement de notre quotidien, que le Covid a joué comme une sorte de stress test. Et effectivement, plein de choses qu'on croyait impossibles sont devenues très rapidement réalisables. Donc la question qu'on a voulu se poser, c'est qu'est-ce qu'on a appris durant cette première vague? Et puis, comment est-ce qu'on va inventer le nouveau normal qui va arriver, je dirais, dès cet automne, si ça se trouve dès le mois de septembre, et avec un point d'orgue, vu le spécialiste, l'expert que j'ai en face de moi, Benjamin Protet, qui travaille pour Business et Décision. Salut Benjamin.
Salut Marco.
Un truc que j'aimerais bien, c'est pouvoir aller comparer l'expérience client avec l'expérience du collaborateur. On a beaucoup parlé du collaborateur, justement, parce que la transformation, elle a opéré beaucoup pour les collaborateurs, les parents aussi, mais ce sera pas l'objet de l'échange d'aujourd'hui. Et effectivement, alors je connais bien, moi, l'expérience client, parce que, en gros, il y a des dizaines, des centaines de moyens de l'avoir transformé, modifié, amélioré. Ça, c'est quand on veut vendre quelque chose, qu'on y met beaucoup d'efforts pour que ce soit encore plus fluide. Au niveau du collaborateur, en sachant que j'ai moi-même été collaborateur avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve que ça va beaucoup plus lentement et ma perception, eh bien, c'est que c'est plus subi. Et grâce à l'expérience de Benjamin, on va pouvoir faire cette comparaison qui, moi, m'intéresse beaucoup. Benjamin, c'est un expert en transformation digitale, mais qui n'est pas anodin, parce que il a commencé avec des études réussies en biochimie. Il a fait sa propre transformation à lui pour pouvoir passer un cursus à l'EPF en management des systèmes d'information. Et puis, son expérience de CIO, chez le client, comme on dit, ça lui a rendu beaucoup de services pour mettre à profit ses connaissances dans des stratégies digitales qu'il promulgue désormais à des clients. Alors, plutôt en Suisse, il a également travaillé sur le marché français. Il est aujourd'hui Consulting Director du groupe Business et Décision, mais basé à Genève, pour la Suisse. Une petite anecdote que j'ai remarquée en regardant ton profil LinkedIn, Benjamin, c'est que je sais enfin de qui Jérémy, donc mon acolyte, moi c'est Warco Brienza, et vous savez, j'organise chaque épisode avec Jérémy Wagner, et vous nous trouvez tous les deux sous cet acronyme dans les médias sociaux. Il avait cette fameuse citation, il avait l'air encore plus smart quand il la disait, c'est dans la transformation digitale, le mot important, c'est pas digital, c'est le mot transformation. Et ça, en fait, c'est une citation à Benjamin, parce que je l'ai vu sur ton site. Tu confirmes ?
Je confirme. C'est quelque chose que je dis beaucoup et quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il y a une énorme différence entre la digitalisation et la transfo digitale. Et ce qui est compliqué dans ce monde-là, c'est pas la digitalisation, c'est bien la transformation. Et qu'est-ce qu'on va transformer ? Moi, j'aime bien dire on transforme l'asset le plus important de toutes les sociétés. C'est l'être humain qui est derrière. Et là, il y a quelque chose de nouveau à inventer quand on fait une transfo. Et c'est là qui est le plus compliqué. Voilà, donc... J'aime beaucoup cette citation, je l'utilise beaucoup et j'aime bien quand mes clients me suivent dans ce sujet-là.
Et tu as en tout cas deux disciples, Jérémy et moi, qui l'utilisons régulièrement, donc on augmente tes quotas. Et puis toi-même, tu as réutilisé le mot transformation, puis tu as repris le terme d'humain. Moi, je me demandais si tu pouvais nous en dire plus sur ton grand écart à toi entre biochimie et EPF. Il s'est passé quoi ?
Alors, c'est une bonne question. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que moi, j'ai fait une transfo. Moi, j'étais pas du tout un monde du geek. J'étais pas du tout un temps. Même l'informatique ne m'intéressait pas du tout. Et puis un jour, j'étais confronté au marché. J'étais passionné de biologie.
Marché du travail.
Et passionné de biologie, métier que j'adorais. J'étais vraiment épanoui là-dedans, mais voie complètement fermée pour trouver du travail. Et j'étais là où il y avait du travail. Mm-hmm. On est dans les années 2000. 98-2000, et les écoles d'ingé en informatique prenaient des gens perdus comme moi pour les remettre sur la bonne voie du marché du travail. Et donc, j'ai fait ma transfo. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais, mais absolument pas. Et ça, je l'utilise énormément. Des gens comme toi, comme Jérémy, vous êtes des gens qui sont complètement techno-addicts et vous êtes des digital natifs pour moi. Moi, pas du tout. Et du coup, en confrontant quelqu'un qui a su se transformer comme moi versus des gens qui vivent dans ce monde-là, je pense que cette approche complémentaire, elle a beaucoup de valeur pour nos clients qui, eux, doivent se transformer concrètement parce qu'il y a des enjeux colossaux. Voilà ce que je vends à mes clients parce que je le crois.
J'essaie de chercher un point commun. Peut-être qu'en un mot, il y a une forme d'alchimie qui opère autant quand on est passionné de biologie, autant quand on fait dans la transformation digitale. Maintenant, tu es un apôtre de la transformation digitale, si tu me pardonnes cette expression. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer les piliers sur lesquels repose la transformation digitale ?
Alors, transformation digitale, comme tous les noms qui sont hyper utilisé, on peut lui faire ce qu'on veut à ce mot-là. Moi, je résume ça en disant, la transfert digitale, c'est quoi? C'est qu'on vit tous dans un monde qui, lui, s'est digitalisé. Et c'est comment je réagis par rapport à ça, que je sois une personne ou surtout une entreprise. Et il y a trois grands piliers pour moi sur cette transfert digitale. L'entreprise, elle doit bosser sur trois grands piliers. Ce que j'appelle les outils, les process, et puis les personnes, enfin. Si on va très vite, hein, les outils, c'est qu'est-ce que je mets en place comme outil qui me permet de digitaliser une partie de mon business, que ce soit interne ou externe, pour vendre, pour faire du process interne. Deuxièmement, c'est mes process. Et là, on peut dire, mais voilà, quels sont mes process qui doivent se digitaliser? Et enfin, et c'est là où il y a le plus de travail, les fameuses people, les personnes, comment mes personnes réagissent à tout ce monde qui s'est digitalisé sur une nouvelle façon de travailler. Mmh. Et moi, je travaille en entreprise sur ces trois piliers-là, et j'en fais forcément un grand tout. L'erreur, j'allais dire, que je vois assez traditionnellement, c'est que les entreprises mettent beaucoup d'axes sur un sujet. On investit beaucoup, on fait un nouveau site web, digitalisation de l'outil. Mmh. Mais on oublie, par exemple, les process des personnes. Moi, j'essaie de faire un grand tout de ces trois piliers.
En fait. T'es sûr qu'ils l'oublient? Parce que moi, tu sais, l'impression que j'avais, hein, sachant qu'il y a eu des transformations digitales, alors, chez les boîtes que j'accompagne, mais aussi précédemment dans les boîtes dans lesquelles j'étais un simple employé, j'ai l'impression que c'est bien pratique d'avoir l'alibi de changer d'outil pour finalement lancer la transformation digitale, mais qui dit pas son nom.
Alors, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que souvent c'est comme ça qu'on la lance, parce que c'est comme ça ce qui est le plus simple. Donc tu as raison, peut-être qu'il n'oublie pas, on commence par le plus facile en commençant par l'outil en tout cas. Ce qui vient derrière, c'est que si on n'a pas fait le boulot des process et des cultures, eh ben elles vont revenir très fort c'est dans évident. Le visage. Et c'est pour ça que les entreprises ont des soucis par rapport à la transformation digitale, ils mettent l'investissement pas bon équilibré sur ces trois piliers à mon avis. Et on oublie le troisième pilier, souvent, l'être humain.
Mais tu sais comment moi je l'ai vécu, et je trouve que cette parenthèse est vraiment extrêmement intéressante, et moi j'ai l'impression qu'avec cette configuration-là, bien pratique pour l'employeur est l'interprétation où, non, mais moi j'ai lancé une transformation, je vous en ai parlé, et j'ai perçu parfois une sorte de marche forcée. C'est non, j'ai lancé, c'est un truc super positif, ça va faciliter votre vie, vous allez avoir la visibilité sur des choses et une coordination, on va dire, électronisée, qui va vous faciliter la vie. Mais par contre, après, c'est à toi de courir derrière pour comprendre comment ça marche, pour appeler le helpdesk. Et je crois qu'il y a une vraie volonté de bien faire de la part des entreprises, mais en sachant que parfois, c'est à marche forcée que les gens ou rattrapent ou en fait s'en vont, quoi.
Alors tu as raison, à marche forcée, et deux, avec une maille du temps, enfin, qui dit transformation, et peut-être même que le mot transformation est pas bon, il y a une histoire de temps. Et l'entreprise, elle n'a pas le temps. Elle va très vite. Et donc, marche forcée, c'est-à-dire qu'elle va directement vouloir faire quelque chose extrêmement vite. Et du coup, potentiellement, les process et les people vont courir derrière ça pour le rattraper. Et c'est là où ça va crisper, c'est là où c'est vers la complicité de l'entreprise en disant, mais on a voulu lancer un truc alors qu'on n'était pas prêt. Moi, je crois beaucoup que la transfert digitale, il faut accepter qu'elle se fasse dans le temps aussi. Alors, à quelle maille de temps? En tout cas, la maille de temps de l'entreprise qui est dans un marché super concurrentiel, etc., ça peut être compliqué. Et moi, je dis toujours que l'indicateur numéro 1 d'une transfert digitale réussie, c'est à quel point la boîte est devenue agile. Donc, dans le temps, elle a fait des exercices d'assouplissement et elle est devenue agile. Pour moi, le mot agilité est au clé de la réussite de la transformation digitale. Et quand on court derrière quelque chose, c'est dur d'être agile, en fait. C'est dur d'être agile.
Et en l'occurrence, j'ai l'impression que cette vitesse, on s'est habitué en tant que consommateur et client. Combien de versions on a de ses applications préférées en une année ou parfois même en une saison? Cette vitesse, c'est comme si on la plébiscitait en tant que consommateur client. Mais par contre, en tant que collaborateur, j'ai l'impression qu'elle est davantage subie. Avec l'expérience que tu as de la transformation digitale, je pense que tu as eu des projets qui avaient pour but une transformation de l'expérience client, d'autres projets où il y avait l'inclusion de l'expérience collaborateur. Et quelles sont les différences que tu as pu observer, toi, entre ces deux types de projets, entre guillemets? Je sais bien que parfois ça se recoupe, hein, mais on va dire ces deux volets séparés.
J'aime beaucoup le présenter comme ça en disant effectivement, en tant que consommateur, on s'est tous digitalisé très vite. Et là, on court vite. Je sais pas si t'as vu ça, que Netflix, par exemple, permettait de regarder les épisodes plus vite pour en consommer plus. Le collaborateur, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que sa structure, sa boîte, elle a potentiellement été moins vite. Et donc, il y a une grande différence. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que, petit 1, c'est pas inintéressant d'aller regarder ce que c'est que l'expérience collaborateur, comme on aurait fait l'expérience client, où le marketing a beaucoup investi dessus. Moi, je suis un client, en ce moment, je suis en train de faire ce qu'on appelle des journées du collaborateur, en disant, mais c'est quoi l'expérience du collaborateur par rapport à ses boîtes, comme le marketing le fait avec un client, ne serait-ce que pour utiliser les mêmes techniques, pour dire, mais est-ce que je prends soin de mon collaborateur comme je veux prendre soin de mon client? Donc, utiliser l'outil de l'un pour l'autre, c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes dans lesquels t'as pu faire ça?
Alors, non. Pourquoi? Parce que ce qui ramène de l'argent, c'est de vendre des produits à des clients. Moi, je crois quand même beaucoup que, on peut prendre l'exemple des GAFAM qui font vivre une expérience client qui est extraordinaire. Si on prend un Amazon aujourd'hui qui livre en 24 heures n'importe où, n'importe quel produit, en tant que consommateur, tu es super content. En tant que collaborateur, c'est une autre question. Et en tant que client, est-ce que je suis sensible à comment ces boîtes-là traitent leurs collaborateurs? De plus en plus. Donc, clairement, je dirais non dans un premier temps et oui dans un deuxième temps. Les boîtes, quand même, ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leurs collaborateurs. Et le collaborateur, il est hyper sensible. Toi et moi, on est hyper sensible à la cohérence du propos de notre patron. Si notre patron, il a un discours avec le client et qu'avec ses propres collaborateurs, il a pas la même, eh ben, on va l'embêter. La cohérence est super importante. Moi, je trouve que trop de boîtes encore aujourd'hui rajoutent cette transformation sur le collaborateur comme un gimmick ou comme une surcouche. On a vu arriver les chief happiness officer en entreprise. On se trompe en faisant ça. Le collaborateur, il sait bien qu'on se fout de lui quand on fait ça. Le collaborateur, il a besoin de cohérence et il a besoin qu'on fasse attention à lui et qu'il y ait une culture dans l'entreprise qui soit la même pour lui et pour le client. Voilà. Donc la cohérence de tout ça est super importante.
Deux remarques qui me viennent comme ça. La première, c'est que j'essaie de chercher un exemple. Parce que voilà, je connais aussi quelques entreprises où il y avait la transformation de cette expérience collaborateur. J'ai rien réussi à trouver d'autre que introduction d'un ERP ou en introduction pour les départements vente d'un CRM. Ce que je trouve plutôt pauvre, quoi, comme exemple. L'autre marque, le coup de l'introduction du Chief Happiness Officer, je trouve qu'on déraille pas mal les RH pour le fait qu'ils ne font rien, en tout cas de manière perçue, hormis payer les salaires puis gérer les vacances. Un petit clin d'œil à plein de directeurs responsables RH que j'aime beaucoup. Et en l'occurrence, c'est comme si c'est une occasion de plus de pouvoir se moquer, en fait, d'un département qui doit être au centre des activités de la société. Toi, t'as des autres exemples que l'introduction d'un ERP pour la transformation digitale du collaborateur ou de l'entreprise?
Alors oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, voilà. Alors, et le Covid nous l'a accéléré. Qu'est-ce qu'il a ouvert le Covid en 24 heures? C'est notre capacité à travailler à distance, d'être connecté et mobile. Et je connais beaucoup de boîtes qui n'étaient pas du tout connectées, pas du tout mobiles, et soit ils ont réussi à le faire en 24 heures, soit ils n'ont pas réussi à le faire, mais globalement, ils ont réussi à le faire. Et donc, c'est donner au collaborateur un environnement de travail qui lui permet d'avoir, l'anglicisme n'est pas beau, mais le work-life balance qui va bien. Et si j'ai choisi, moi, d'arriver plus tard au travail ou de travailler à distance ou de travailler chez moi, est-ce que tu me donnes la possibilité à ça? Donc là, on n'est pas que sur le RP ou sur le CRM, on est sur est-ce que tu me permets de travailler autrement qu'en arrivant à 8h et en pointant.
J'allais justement te citer, je trouve excellent, parce que t'as pas dit est-ce que tu me permets, c'est est-ce que je peux. Et je trouve que ces deux questions, ces deux points qui sont différents, quoi. La permission, hein, c'est le réflexe que j'aurais, moi, avec un employeur, mais ça fait peut-être trop longtemps que je suis plus à la solde d'un employeur, c'est est-ce que j'ai la permission? Mais toi, tu parles de possibilité, quoi, technique et de faisabilité.
Possibilité technique et aussi, pour beaucoup aussi échanger avec des RH, j'allais dire la jeune génération. Encore une fois, je déteste pas de limiter, de faire des, mais on comprend bien quand je dis ça. En entretien, elle va le demander maintenant. Qu'est-ce que tu m'offres en tant que marque? Qu'est-ce que tu m'offres en tant que collaborateur? Moi, et je vais choisir la marque aujourd'hui. Alors, il y a des marques iconiques, on a envie d'y aller parce qu'on sait que la marque est iconique. Mais si l'expérience collaborateur que tu m'offres, elle ne me permet pas d'avoir un work-life balance, je ne viens plus chez toi. J'aime beaucoup aussi embêter les RH, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que si je n'avais pas fait de biochimie et puis d'informatique, j'aurais fait le métier de la RH. J'aime beaucoup l'être humain. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de roupiller là-dessus? Souvent, je leur dis ça, un peu pour les taquiner en disant mais qu'est-ce qu'on offre? Pour moi, le binôme de la transformation digitale en entreprise, c'est le RH et le DSI. Bien sûr que le marketing doit bosser là-dessus, c'est une évidence, mais lui, il est parti. Lui, il est à fond, le marketing. RH et DSI, est-ce que vous bossez là-dessus? Moi, j'ai discuté pas plus tard que la semaine dernière avec une DRH d'un grand groupe genevois, et elle me disait, mais moi, mon partenaire de jeu, c'est le CTO. Et elle parlait de partenaire de jeu, donc CTO pour Chief Technical Officer, donc en gros, celui qui pilote la DSI. Et c'est à deux, et on joue ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ce mot, pour faire la transfo. Voilà, le binôme, elle avait compris que le binôme RH-DSI était capital pour faire la transformation.
Oui. Est-ce que tu es d'accord quand je dis que assez souvent quand même les RRH ou les DRH ont les mains liées? Je pense beaucoup aux PME en disant ça. Il y a certaines responsables RH qui sont intégrées au comité de direction mais en étant rattachées au directeur général, qui ne sont pas directeurs d'un département ou directrices de département elles-mêmes. Et effectivement, quand on n'est pas décideur mais plutôt administrateur du personnel, donc administration des salaires, hein, j'entends principalement, j'ai l'impression qu'il y a une légitimité qui se perd, ou en tout cas qu'il y a quelqu'un qui rentre pas dans son rôle. Et la question que j'avais à l'esprit, c'est comment on fait quand on a les mains liées mais qu'on sent qu'on a une mission et que franchement là le contexte nous indique qu'il faut se transformer au niveau du collaborateur, comment on fait pour avancer?
Tu l'as dit en wording, je pense que qui on est en entreprise, quand on est responsable des ressources humaines ou responsable du système d'information, on n'est pas directeur. Je sais que c'est que du wording ça, mais il faut pas avoir les mains liées là-dessus, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RH, il est responsable de faire la paye ou de vérifier que les gars pointent bien en arrivant. il n'est pas DRH au sens, je suis responsable des ressources humaines de l'entreprise. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas de DRH ou qui ne veulent pas de DSI. J'aime bien ces deux exemples. Ils veulent des gens qui font de l'opérationnel. Mmh. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on ne fait pas une transfo digitale avec un patron qui ne veut pas la faire. Ouais. Clairement. Et souvent, des gens m'appellent en disant, venez m'aider à convaincre mon patron qu'il faut avancer là-dessus. Je dis, il n'y a pas de souci, mais ce qu'on va faire, c'est bien ça. Donc, on va faire, tu parlais d'approche, on va parler d'évangélisation. On va essayer de lui démontrer que ça a de la valeur pour son business model, etc. Mais s'il ne veut pas y aller, ben on n'ira pas. Et concrètement, moi, j'ai jamais vu une boîte qui se transformait contre l'avis de son patron. Et donc, il faut que le CEO, le patron de l'entreprise, il ait envie de ça. Il ait envie de dire, oui, moi, je veux m'adapter à un monde 2.0, etc. Mmh. Et s'il n'a pas envie, ben il n'a pas envie.
Bon, t'as des sacrés arguments, toi, par contre. Hein. Et là, tu me tends la perche pour le point, tu sais, où je revenais pas hein, quand tu m'en as parlé. Donc ça, c'est un commentaire, comme très souvent... Les commentaires les plus intéressants sont faits en off, mais Dieu merci, je suis là pour pouvoir les ressortir. Et celui-ci, alors, il m'a presque fait tomber de ma chaise. Tu me disais tout à l'heure que 15 à 30% du chiffre d'affaires annuel dépensé par une société l'est à cause de la non-qualité de ses données. Et qui plus est, tu m'as cité des sources très très fiables, et je me demande comment est dépensé cet argent.
Alors, un tout petit peu de contexte par rapport à ça. Déjà, le première chose à dire, ce qui est important, c'est de dire, et les CAFAM, eux, l'ont bien compris, c'est que digital et data, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, j'aime bien prendre l'image de l'iceberg, la partie du digital, c'est ce qu'on voit. La data, c'est toutes les sous-couches qu'on voit pas. Mais pour faire une transfo digitale performante, il faut maîtriser sa data. Et effectivement, il y a deux sujets dans l'entreprise, mais qui sont des poncifs, et on peut toujours les ressortir, c'est la qualité de la donnée et le manque de gouvernance. Ça, tu peux y aller, n'importe quel patron va avoir des soucis par rapport à ça. Et effectivement, des gens ont fait des études là-dessus. Des grandes boîtes qui s'appellent IBM, qui s'appellent Salesforce, ou des cabinets de conseil qui s'appellent Gartner, qui s'appellent Forrester, ont fait des études. Et effectivement, de 15 à 30% du chiffre de l'affaire d'entreprise est perdu. Alors, on va voir comment, sur la non-qualité des données. Ça veut dire quoi? Elle est perdue sur différents sujets. Elle est perdue parce que potentiellement, on a pris des mauvaises décisions. On a fait une analyse d'une situation, mais les données n'étaient pas bonnes.
Tu sais, quand tu dis données pas bonnes, je vais juste citer quelques exemples. C'est le cas du client qui a doublon x4 ou qui est dans différents systèmes d'information, parfois pas écrit du même nom, mais on parle bien de la même personne. C'est les adresses email qui sont en doublon et puis le type qui reçoit 8 emails ou qui en reçoit 0, alors qu'on a une base de données où les mecs soit se désinscrivent parce qu'ils sont inscrits 8 fois, bah soit ils reçoivent jamais le mail, donc ils réagissent jamais. On parle de ces petites choses-là cumulées.
Alors, c'est exactement ça. Alors, c'est peut-être plus massif en entreprise, mais tu as raison. Moi, je dis toujours en entreprise, est-ce que vous pouvez me montrer votre fichier client? Pas de souci, allez demander au DSI. Déjà, je sais que ça va pas. Déjà, je sais que ça va pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris soin de son fichier client comme on a pris soin de beaucoup d'autres assets. Et du coup, on fait n'importe quoi. Tous les exemples que tu as donnés, on le voit très, très, très fréquemment en entreprise où le fichier client va pas bien. On ne connaît pas bien ses clients, là où les GAFAM, eux, sont très bons. Ils sont très bons là-dessus. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils sont très bons là-dessus. Ils vous connaissent très bien. Ils connaissent beaucoup d'informations sur vous. Et ça, c'est un vrai enjeu colossal. La connaissance client et la personnalisation. Si la qualité de la donnée que vous avez derrière ça n'est pas bonne, vous devez à lancer ce chantier. Mmh. C'est évident. Et on imagine très bien la perte d'argent que peut avoir une mauvaise campagne marketing ou là, on comprend très bien l'argent qui peut être gâché par rapport à ça.
Ah ben, je te laisse reprendre avec tes explications parce que je voulais juste être sûr que tout le monde comprenne ce que c'est. A priori, c'est les bases de données avec lesquelles vous travaillez. Excusez-moi, voilà. Mesdames et messieurs, directrices, directeurs, mais dans l'écrasante majorité des cas, on a des bases de données qui sont largement perfectibles, quoi.
Alors, extrêmement largement perfectible. Et surtout, c'est ce qu'on appelle la tragédie des silos. Chaque information va être stockée dans un endroit du système d'information ou dans un métier et on est incapable de les réconcilier. Donc, on a une image du client qui est éparpillée dans tout mon système d'information. Ça va déclencher quoi? Des choses que vous avez tous vues en entreprise. Chacun va venir avec son chiffre. On a combien de clients, on a fait combien de chiffres d'affaires, combien de comités de direction j'ai assisté où chacun sort son chiffre. Et on a son chiffre, mon chiffre est le bon. Et donc, on a des débats sans fin. Vous avez un autre exemple de la mauvaise décision et de la qualité de la donnée qui permettent de pas piloter l'entreprise. Ou alors encore, le retravail. Pour produire le chiffre, la veille du comité de direction, il y a 15 équipes qui bossent pour produire le chiffre qu'ils vont analyser dans le comité de direction. Et donc, le rework va être colossal. C'est pour ça, et tu l'as dit, le coût de la qualité des données, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il est caché. C'est Martine à la compta qui va passer 2 heures ou 2 jours à produire un chiffre. C'est Robert au contrôle de gestion qui va retravailler ou bosser sous Excel. Il est caché sous.
Et pendant qu'il retravaille, je profite de faire une petite parenthèse, il ne valide pas, par exemple, les offres qui sont faites par des key account managers performants comme moi, qui veulent faire gagner de la profitabilité à leur employeur.
Mais un, tu as tout à fait raison, et deux, on revient au premier boulot, au premier sujet qu'on avait sur la transformation des ressources humaines. Ces personnes-là ont passé 90% de leur temps à faire du travail qui est pas très intéressant, alors qu'ils pourraient faire leur boulot de contrôle de gestion ou de vérifier. Moi, j'aime beaucoup la blague, alors qui est sur les data scientists, qu'il y en a un voir, qui dit un data scientist, il passe 90% de son temps à retravailler la donnée parce qu'elle est pas de bonne qualité et 10% de son temps à râler parce qu'il doit retravailler la qualité de la donnée. Et en gros, il fait 0% du travail de data scientist. Et ben, cette image-là, on peut la prendre avec n'importe quel gars qui bosse avec la donnée en entreprise. Et ce que je dis là, c'est pas compliqué d'aller le vérifier. Allez voir le temps passé par vos équipes, à produire de la donnée. Il est colossal aujourd'hui. À l'analyser, il est beaucoup, 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 beaucoup plus faible. Mmh. Il faut arrêter de planquer ce chiffre. Moi, je dis ça aux gens. En fait, j'arrive au comité de direction et je leur dis, vous avez perdu l'année dernière 30% de votre chiffre d'affaires en qualité de données. Ah, mais non! Prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi que vous l'avez pas fait. Alors, volontairement, très provocateur, etc. Parce que je suis sûr que personne n'a fait le boulot de le factualiser, en fait. Et mon boulot aujourd'hui, c'est d'aider l'entreprise à aller factualiser ça. Mais est-ce qu'on perd de l'argent ou pas? Je suis sûr de mon coup, la réponse est oui. Si vous utilisez la donnée, vous perdez de l'argent si votre donnée n'est pas de qualité. Et donc, on va travailler ce sujet-là. Et c'est un vrai serpent de mer. Et les sujets qu'il y a derrière, on va ouvrir beaucoup de portes potentielles super intéressantes. Moi, j'ai des centaines d'histoires à raconter de gains, je veux dire, colossaux par rapport à la qualité de données qu'on remet droite.
Je crois qu'il y a une case que j'ai comprise, c'est tout le temps qu'on passe, en fait, à se coordonner, à réconcilier des fichiers Excel, à recopier, recoller la colonne ou la cellule, histoire d'être sûr qu'on ait bien le bon chiffre. Donc ça, je l'ai compris. Je me demandais s'il y avait des autres cases, en fait, à part ce temps mal investi.
Ah ben, on peut prendre un autre case. Enfin, donner des exemples super concrets. J'ai été appelé il y a quelques temps par une grande marque horlogène du marché genevois en me disant, venez m'aider à faire des bonnes campagnes marketing. Et je vais les voir, et en fait, ils font de très bonnes campagnes marketing. Donc, c'est compliqué quand on est consultant, qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc, faut trouver une idée. Et je leur ai dit, mais vous les envoyez à qui, ces campagnes marketing? Et là, catastrophique. 1 million de personnes dans la base de données, il n'y avait que 20% qui recevaient les campagnes marketing. Et sur ces 20%, il y en avait qui étaient ce qu'on appelle opt-out, donc qui ne voulaient pas les recevoir. Et donc là, tu as tout de suite un exemple. Là, c'est pas du rework. C'est-à-dire que je dis quelque chose via une campagne marketing, au lieu de dire à 5 personnes, je le dis à 1 personne.
Ils en étaient conscients?
Pas du tout conscients. Alors, c'est très intéressant celui-là. Pas du tout conscient. La personne qui nous avait appelé, on va dire, c'était un N-4 dans la hiérarchie. On a fait la démonstration, et dans la même démonstration, je suis remonté de 4 niveaux hiérarchiques avec le directeur marketing qui arrivait à la présentation, en disant, ils se sont appelés, ils sont venus voir. Donc, non seulement ils n'avaient pas conscience, mais en faisant cet exercice-là, on est monté dans la hiérarchie de la décision extrêmement vite. Extrêmement vite. Pas conscient. Et pourtant, c'est un enjeu capital pour l'entreprise. Voilà un autre exemple tout bête de qualité de données qui coûte très cher.
Et dans cet exemple-là, en l'occurrence, l'illustration a permis de débloquer quelque chose. Alors, ou ils ont préféré mettre la tête dans le sable.
Bien sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ils sont partis pour faire quelque chose et faire ce qu'on appelle un Customer Data Hub. Il y a plusieurs noms qui existent là-dessus, qui est de dire, je vais stocker de manière centralisée dans mon système d'information l'image de mes clients pour qu'elle soit accessible non seulement par mon outil de campagne marketing, mais par tous mes outils qui doivent parler ou rencontrer mon client, par exemple. Et donc, on a lancé ce projet, effectivement. Donc, ça a lancé un projet derrière. Et cet audit, ce qui a pas coûté cher, j'allais dire, qui n'était pas compliqué en termes d'investissement, comme elle le prouve, avec des campagnes marketing performantes. Petit exemple.
Alors, bon exemple, je trouve. Et puis, je trouvais, il y a un côté paradoxal qui m'a fait sourire, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour les collaborateurs également. Tu parlais tout à l'heure de pouvoir retrouver la donnée exacte, la bonne donnée dans les autres outils qui sont également utilisés. Donc, c'est à ce titre que je pense qu'il y aura une transformation aussi pour les collaborateurs, mais c'est nouveau parti du client, quoi.
C'est parti du client. Alors, t'as raison, parce que cet exemple-là, il parle. Mais cet exemple-là, je vais vous donner un autre exemple. Il y a des exemples, j'en ai 50. Le Covid est arrivé. Une boîte a dit, bon, eh ben, on va devoir communiquer à nos X milliers d'employés, il y en avait 3000, notre plan d'action. Madame la DRH, est-ce que vous pouvez sortir la liste de nos employés? Ça semble pas très compliqué. Incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'éparpillé dans 15 systèmes d'information, la structure n'était pas capable de communiquer à ses 3000 salariés les plans d'action, parce qu'il n'y avait pas de référentiel dit employé. Donc l'image que je prends avec le customer, le client, tout le monde va la comprendre très vite, mais ça peut marcher avec n'importe quel référentiel de l'entreprise. Ce qui est important aujourd'hui, savoir toucher tous mes collaborateurs en temps réel aujourd'hui, c'est devenu un must, et la crise nous l'a prouvé.
Et autre point fort que j'ai relevé, tu parlais de factualiser tout à l'heure, parce que c'est clair, imaginer ou estimer. Moi, je pense que c'est déjà un exercice, voire un bon exercice, mais alors factualiser, puis objectiver, c'est quoi le montant de la perte et ou manque à gagner, bah, c'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que Business et Décision propose, et ce que je me demandais, c'était comment vous faites ça, quoi? T'arrives à me pitcher, allez, en 30, 60 secondes.
Allez, en 30, 60 secondes, déjà.
Imagine qu'il y ait des décideurs en face de toi, et n'oublie pas les PME, parce que je pense qu'il y a du boulot, quoi.
Alors, je commence à les provoquer en disant, vous perdez 30% de votre chiffre d'affaires à cause de la non-qualité de votre fichier par rapport à ça. Bien sûr que non, monsieur Protet, nos données vont bien. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre là-dessus? En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est incapable de factualiser la qualité des données. Donc nous, on a développé une offre qui permet de faire quoi? Qui permet d'aller factualiser. Très bêtement, on choisit un périmètre fonctionnel, on va choisir des indicateurs de qualité, on va les faire ensemble et on va aller les mesurer. Et après, on extrapole ça au niveau de l'entreprise, on est capable de mettre un chiffre. C'est bien sûr une estimation, mais ça permet de dire, mais si on a investi là-dessus, voici le ROI. Et donc, en fait, on a mis en place une logique qui permet d'aller à un décideur de voir combien lui coûte son manque de qualité de données sur un périmètre donné, et du coup, voir si ça vaut le coup de mettre l'argent dessus, tout bêtement. Si je perds 10 000, je peux mettre 5 000 pour corriger. Voilà, et ben on a fait ça. Tant que je pitchais de manière généraliste là-dessus, et ben je marchais pas. Et quand j'ai dit d'accord, et ben je vais vous le prouver. Et là, ça se met à marcher. C'est l'histoire tout à l'heure avec le fichier client. Hein. Quand on prouve, là, on remonte dans la hiérarchie.
Et le périmètre, ça peut être autant finance, marketing ou vente que toute la boîte. Parce que tu parlais de silos tout à l'heure. Et je me demande si, des fois, un périmètre en dessous des principaux départements et activités de la société dont on parle, ce serait pas le bon périmètre.
Alors, c'est assez important ce que tu dis, parce que souvent, les gens lancent des initiatives qualité de données, mais de manière très transversale. Et moi, j'en parle du use case. Si ta boîte, elle fait des campagnes marketing, on va parler du fichier collaborateur. Si ta boîte, elle a un problème de qualité de données ou elle n'arrive pas à toucher ses collaborateurs, on va travailler là-dessus. Donc, on va définir ensemble le périmètre le plus cohérent et le plus intelligent.
Moi, ça me plaît. Est-ce que tu aurais des use cases que tu as trouvé pertinents quoi, à travers ton histoire? Tu sais, une PME est unique, mais elle ressemble aussi à d'autres PME qui sont à structure égale. Trois use cases qui sont bien parlants, qui parleraient bien. Bah, ces fameux décideurs que tu as toujours en face de toi, ce serait qui?
Ouais, Ce serait quoi, pardon? Le positionnement qu'on a eu chez BD, et moi j'y crois beaucoup, c'est qu'on est généraliste de la data. C'est-à-dire que moi j'ai toujours parlé de manière assez générique. Je vais parler de la même chose si je parle à une banque ou à un horloger ou à une assurance. Pourquoi? Parce que la logique est derrière, c'est toujours on vend des produits à des clients, 9 fois sur 10. Par contre, j'ai même fait beaucoup d'humanitaire et le client, c'est celui à qui je vais aider, par exemple. Juste pour dire que les logiques, elles vont être transversales. Mais le top des idées, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours parlé des référentiels. Je vais redonner un exemple. J'ai parlé il y a pas longtemps à quelqu'un qui me dit, à cause du Covid, c'était en France, celui-là, on a dû distribuer un milliard donc d'euros à nos partenaires parce que ils avaient le droit à des... Je dis super, vous avez fait ça comment? Via fichier Excel et en faisant bosser les gens le week-end parce qu'il fallait aller vite et que politiquement l'annonce avait été faite, fallait aller très vite. Je suis sûr d'un truc, c'est qu'on faisait plein d'erreurs. Donc ils ont distribué un milliard et beaucoup d'erreurs. Et ben eux, c'était le fichier qui stockait les images des partenaires. Il n'y en avait que quelques centaines dedans, mais c'était infoutu de l'avoir bien propre dans SI. C'était un fichier Excel qui faisait ça. Juste pour dire, ouais, dans ce cadre-là, c'est les partenaires sur lesquels il faut travailler parce que on est dans le monde étatique. Sinon, deuxième, sur lequel il faut forcément bosser, c'est le client. Pour moi, on est sur l'ère de l'ultra-personnalisation. On est sur l'ère de la relation client qui doit personnaliser ma relation et donc il faut travailler là-dessus. Et le troisième, et j'aime beaucoup aussi travailler les boîtes là-dessus, c'est les produits. Mais qu'est-ce qu'on vend? Et qu'est-ce qu'on vend? À quel prix et qu'est-ce qu'on vend? Et voilà. Mais si je devais travailler sur trois sujets, je travaille sur ces trois sujets aujourd'hui.
Et puis, si on y a collé les départements qui vont avec, alors le troisième, j'ai l'impression que ce serait le département marketing.
Ouais, marketing. Vente et marketing, c'est là où c'est le plus visible. Bien sûr, c'est là où c'est le plus visible.
C'est peut-être là où c'est le plus rapide aussi, entre les moyens qu'on met et les résultats qu'on peut observer.
Tout à fait.
Il y a des mois, mais quand même.
Alors oui, c'est là où c'est le plus rapide. Je mettrais plutôt visible. Parce que c'est aussi des gens qui ont l'habitude de marketer ce qu'ils font. Et donc, il y a aussi, c'est des gens qui sont très bons en communication, le marketing. Je pense aussi qu'il y a des investissements qui peuvent rapporter beaucoup sur des choses qui sont beaucoup moins sexy que le marketing, mais effectivement le département marketing est super important. Mais si vous êtes dans l'assurance par exemple, bien connaître mon client et personnaliser ce que je vais lui faire comme offre, et donc là on est plus sur les ventes par exemple, c'est aussi super important, personnaliser l'offre d'un client. Donc en fait c'est ça qui est presque compliqué dans mon métier, le champ d'interaction, il est presque infini. Je peux travailler avec n'importe quel service pour n'importe quel sujet. Qu'est-ce qu'il y a en point commun? C'est la data. C'est toujours la data qui est le point commun.
Ouais, et je sais que c'est difficile d'avoir un point de départ, parce que souvent dès qu'on a le point de départ, on tire la pelote et tout d'un coup il y a plein d'autres projets qui peuvent en découler. En l'occurrence, sur le dernier point, j'avais une illustration pour les assurances. C'est devenu les championnes du profilage / prospection, on utilise le mot qu'on veut. Ces sites internet qui permettent d'avoir tant d'informations sur la couverture par rapport au risque, bah c'est clair que ça leur donne une mine d'informations bien avant que vous demandiez j'aimerais prendre contact avec un conseiller. Et en l'occurrence, moi je trouve que c'est un excellent moyen de personnaliser et je trouve que c'est du du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que d'un côté, bah, l'assurance, pour prendre cet exemple-là, elle a une meilleure connaissance finalement des requêtes du marché. Il y a un stade où elle a l'information sur à qui, enfin qui c'est qui fait toutes ces requêtes-là. Mais par contre, sans l'inscription du nom et du prénom, bah, elles ont des indications sans même connaître et identifier la personne qui est intéressée. C'est pour ça que je parle de profilage et je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants et où il y a encore beaucoup à faire dans le monde des assurances, même si beaucoup a déjà été fait.
Oui, banque et assurance, c'est deux sujets là-dessus. Tu viens de le dire. Souvent, quand je suis chez client, ils me disent, mais je vais pas piquer l'information de mes clients. Mais tu viens de le dire. Si c'est du gagnant-gagnant, je te les donne, tu me les piques pas du tout. Et c'est pour moi, c'est quel service? C'est là où les GAFAM ont été forts. Le service qu'ils ont offert a fait qu'ils ont collecté des informations colossales sur tout, c'était même pas des clients, sur toutes les personnes qui étaient des utilisateurs. Et pour moi, c'est ça où je dis, mais quel service vous offrez à vos clients? Qui fait que moi je vais vous donner ma donnée. Et je pense que un simulateur de prêt pour une banque où ils ont été très intelligents de collecter de l'information, disant ben voilà, on sait que ce monsieur-là, a priori dans pas longtemps, il va faire une acquisition immobilière parce qu'il va chercher une simulation. Je sais son nom, je sais son prénom, je sais son salaire annuel. Bon, ben voilà, ça c'est des choses intéressantes. Donc les banques ont su faire ça assez tôt. Je pense qu'il faut aussi aller plus dans cette direction-là, de dire mais si je te donne le service, la donnée, enfin si tu me donnes le service, ma donnée, je vais te la donner facilement. Mais c'est des sujets qui sont au cœur de quel service je vais t'offrir. Moi j'aime bien dire aux sociétés aussi de dire, il va y avoir deux histoires. Soit c'est les GAFAM qui, parce qu'elles ont la donnée, vont ouvrir de nouveaux services. J'ai vu Google voulait lancer, par exemple, de l'assurance. Soit c'est les assureurs qui vont collecter de l'information et challenger Google. On verra qui va gagner. J'allais dire presque ce combat idéologique. Moi, je crois que c'est aux métiers traditionnels. C'est eux qui sont experts de leur métier. C'est pas aux GAFAM d'attaquer tous les marchés possibles, imaginables. C'est aux assureurs, aux banquiers de se réveiller par rapport à ça.
Elon, si tu nous écoutes, peut-être que l'idée d'assurance n'est pas une bonne idée. Bon, alors, on arrive au terme gentiment de cet échange, mais il y avait encore une petite question que je voulais poser. Une question pas chère, j'espère même gratuite. Je me demandais si tu avais un conseil. Un conseil peut-être pour les multinationales, un conseil pour les PME, d'autre part, bah, un conseil qui rapporte ou qui fait économiser. Hein. On n'a pas fait le bruitage exprès quand c'est une pièce d'un franc, un franc suisse qui vient de tomber.
Moi, je travaille avec les deux types de structures, PME, multinationales. Chacun a sa force. Hein. Une PME, elle va être par définition très agile, et puis une multinationale, elle va être très costaud, mais pas agile. Donc voilà, chacun a sa force et dans la crise. Moi, déjà, je dis deux choses. Hein. Tout le monde a de la data. Qu'on soit une PME, une multinationale, tout le monde a la donnée et tout le monde vit dans un monde qui se digitalise. Donc, il y a quand même des points communs par rapport à ça. Moi, je donnerais deux conseils. J'en fais deux. C'est gratuit, donc j'en fais deux.
Trop bien.
Faites des tests. L'histoire que je raconte là, en disant, mais OK, c'est pas crédible. Et ben, vous arrivez au comité de direction et vous dites, est-ce que, s'il vous plaît, demain, vous pouvez revenir avec le fichier client exhaustif? C'est super simple à faire comme test, ça. Deuxième truc, moi, ce que je disais beaucoup, et on l'a dit au début, je crois que ceux qui résisteront le plus par rapport à la prochaine crise, c'est ceux qui seront le plus agiles. C'est pas les plus forts, c'est l'histoire du chêne et du roseau de la fontaine, mais c'est ceux qui seront le plus agiles. Et pour devenir agile, il faut faire de la gym. Il faut s'entraîner régulièrement. C'est pas lorsqu'il y a une crise qu'on devient agile, c'est parce qu'on a travaillé sa culture à l'agilité. Et donc, faut s'entraîner là-dessus. Et par exemple, moi, je dis aux patrons d'entreprise, apprenez à faire confiance à vos collaborateurs et à leur confier des tâches où ils vont travailler en mode squad, par exemple, et vous allez les laisser 100% autonomes là-dessus plutôt que faire du contrôle de ce qu'ils vont faire. C'est des petites façons de faire qui font que petit à petit, on s'agilise et qu'on va travailler sa souplesse, et c'est ça où on sera bien meilleur quand la prochaine crise va arriver, en fait.
Pour conclure, je voulais annoncer qu'on te retrouvera le 9 septembre au Biopôle Lausanne, lors de l'événement Faire face aux données. On te retrouve en introduction et sur le même sujet, comment se préparer à la prochaine crise. Donc je rappelle aux personnes qui sont là et qui aimeraient bien voir la tête à Benjamin et la suite peut-être en image plutôt qu'en son, il fera l'introduction et je me réjouis de cette intro, quoi.
Eh ben écoute, moi, beaucoup aussi, c'est des sujets que j'aime beaucoup adresser. Et évidemment, on reparlera de ces sujets du poids de la data dans la transition digitale et comment faire face à la nouvelle crise par rapport à la data, avec des exemples assez concrets. Moi, j'ai dit, mais comment, c'est bien toute cette philosophie, mais comment on rend ça actionnable, in real life, en vrai, comment on fait, quoi?
Eh bien, je me réjouis et en l'occurrence, je voulais savoir si les gens souhaitaient alors savoir plus sur toi ou te contacter. Est-ce qu'il y a quelque part sur le web où on peut te retrouver?
Alors, moi, je suis un homme qui utilise beaucoup LinkedIn, en fait. Et donc, voilà, LinkedIn est l'image le plus rapide, la plus facile pour me trouver. J'essaie de publier du contenu sur LinkedIn, pas faire que du contenu marketing en disant, voici notre prochain événement. Donc, d'écrire des articles. Voilà, j'essaie de faire ça pour que ceux qui me suivent puissent être aussi apprendre des choses. Ça marche très bien. J'ai un réseau LinkedIn qui est super intéressant avec lequel on interagit beaucoup. Donc, voilà, LinkedIn, Benjamin Protet. Voilà, c'est ce qui marche le mieux.
Je mettrai le lien, si tu veux bien.
Avec
et puis, en plus, je vous mettrai également le lien pour découvrir le programme de Faire face aux données, hein, ces conférences qui ont lieu le 9 septembre au Biopôle Lausanne et où vous pourrez vous inscrire. Alors, grouillez-vous parce que les inscriptions, si je ne m'abuse, c'est jusqu'au 2 septembre. Donc, c'est vite là. Merci Benjamin.
Merci Marco, à toi.
Et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous êtes férus d'innovation, vous savez qu'on a 35 ou 36 épisodes que vous pouvez réécouter allègrement. Et puis on se retrouve, allez, grosso modo dans un mois pour la prochaine interview de l'innovation. Allez, salut, bye bye.
À bientôt. Accelerate.